Pendant ces vacances, il y a une discussion qui est venue, enfin, à moi, ou je l'ai portée aussi, enfin, dans ces temps de rencontres-là, il y a un thème récurrent qui s'est présenté à moi, autour du développement personnel, autour de l'épanouissement de l'individu, autour du sens que pouvait avoir une action thérapeutique. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Alors les gens m'interrogeaient là-dessus, on discutait, on en a parlé dans le groupe de maison de grâce, etc., etc. Et puis ça m'a amené à réfléchir à ce qu'était vraiment le message biblique. À ce à quoi conduit l'action de l'esprit dans nos vies. Ça m'a amené à réfléchir au sens dans lequel la vie nouvelle de Dieu opère en nous. Et à quoi ça nous amène. Et du coup, je me suis intéressé à un homme dont on a parlé cet été dans le journal du Rioux, Paul, l'apôtre qu'on appelle l'apôtre des gentils. Paul dont la vie a justement été bouleversée par sa rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre qui s'est passée sur le chemin de Damas. Et c'est à travers cette expérience que je vous propose une réflexion autour du sens de la vie de Dieu en nous ce matin. Donc, on va prendre le temps de lire cet épisode. Et puis je vous inviterai à réfléchir avec moi au sens, déjà à l'origine de Paul, d'où il vient, parce que ça nous permet de comprendre aussi ce qu'il est devenu après, mais d'où il vient dans le sens où quel sens cette expérience-là a pris dans sa vie. Et puis on passera au séisme que cette rencontre a provoqué chez lui. Puis je vous proposerai de terminer par quelques caractéristiques fondamentales que lui reprend après, quand il parle de cette expérience-là, de ce monde nouveau dans lequel cette rencontre l'a fait entrer. J'ai choisi cette fois-ci de peut-être tirer des enseignements ou des leçons, ou je ne sais pas comment les appeler, un peu directement au cours de mon discours, tout au long de mon discours ce matin, et non pas de regrouper des enseignements à la fin. Alors, pour commencer, je vous invite donc à cette lecture de Actes, chapitre 9. Il y a deux parties. D'accord. Alors, si jamais j'oublie de faire tourner la page, vous me le dites, parce que ça m'arrive régulièrement, ça. Donc penchons-nous sur cette expérience-là. Saul, juste un tout petit avant-propos, Paul l'apôtre, avant de s'appeler Paul, avant de prendre ce nom, s'appelait Saul de Tarse. Donc juste pour repréciser ça, on va passer de Saul à Paul, et il faut savoir que c'est bien la même personne. Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas, et approchait de cette ville quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Paul s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tars appelé Saul. » Il prie en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à son nom, à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et les forces lui revinrent. Alors, si nous voulons comprendre le sens de cette expérience de Paul, il faut comprendre qui il est, d'où il vient. Et pour ça, il faut comprendre comment il parle de lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il se présente comme Saul, c'est-à-dire le Paul pré-chrétien, ce Saul juif, qu'est-ce qu'il dit de lui-même ? Il dit, vous savez, j'étais circoncis le 8e jour, selon la loi. Moi, je suis israélite de naissance. Moi, je fais partie de la tribu de Benjamin. Je suis hébreu de pure race, c'est ce qu'il dit. Hein. Je suis hébreu de pure race. Aujourd'hui, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Mais lui, il dit, je suis hébreu de pure race. Pharisien si zélé que je suis persécuteur de ceux qui suivaient la voie. Mais si on se replace dans cette perspective, je suis irréprochable quant à la loi. Voilà la description que Paul fait de lui-même avant sa rencontre avec le Christ. Pédigré parfait. Plus pur que ça, c'est impossible. On se trouve là devant le nec plus ultra de la religion juive de l'époque. La perfection fait homme. Et non seulement de par sa lignée, mais ce qui est notable, ce qu'on a vu, c'est que Paul s'était engagé totalement dans cette perspective-là, dans la suite de cette lignée. Et par ses efforts, il était devenu irréprochable quant à la loi. C'est comme ça qu'il se présente. Par ses efforts, il était zélé pour Dieu jusqu'à entraîner la mort, la torture, jusqu'à persécuter ceux qui s'opposaient, selon lui, à la loi divine. un engagement total dans ce qu'il estime à ce moment-là être le combat pour la foi. La façon dont il porte cet engagement, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'interroge quand même. Surtout quand il commence à nous parler de la fureur qu'il transporte pour aller chercher, dénicher tous les chrétiens qui pouvaient se cacher à Damas et sur toute la terre antique habitée. Mais qu'est-ce qui pouvait le motiver ainsi pour répondre de manière aussi radicale aux attentes de ce qu'il lui-même a appelé sa race ? D'où vient cette colère immense ? Est-ce qu'elle vient du fait de voir des personnes bafouer l'image qu'il se faisait lui-même de Dieu ? Est-ce qu'il a peur à ce moment-là de voir son monde et son peuple menacés par la prédication de la grâce par Jésus-Christ ? Là, je fais référence à la peur que le Sanhédrin avait quand Jésus-Christ était venu devant lui. Et Paul savait ça. Est-ce que tout plus simplement, il avait besoin de reconnaissance ? Il voulait en quelque sorte monter dans l'échelle religieuse, devenir un modèle, marquer son temps de son empreinte ? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être une volonté de pouvoir sur les autres ? Et puis tous ceux qui lui résistent, ben, on va les éliminer ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de loyauté quant à ses origines, quant à sa famille qui lui avait permis de fréquenter les meilleurs profs de l'époque ? Et ce désir de répondre à leurs attentes ? Peut-être bien que tous ces mouvements intérieurs en fait l'habitaient, comme ils nous habitent nous bien souvent. Même si, bien souvent, ils sont plus policés. Toujours est-il qu'au comble de la fureur, c'est comme ça qu'il en parle en acte 26, hein, quand il relate cette expérience, au comble de la fureur, il part sur le chemin de Damas pour débusquer les chrétiens et éradiquer cette hérésie de la surface du monde antique. Et là, Jésus-Christ l'arrête. Il l'arrête par une lumière qui le terrasse et l'aveugle. C'est pareil, on ne le voit pas décrit précisément ici, mais quand il en parle, il fait le lien direct lui-même. Il dit qu'il a été terrassé par cette lumière qui l'a aveuglé. Et il est arrêté par une parole qui vient l'interroger. Alors, ses compagnons, eux, ils ne comprennent rien. Ils regardent. Ils essayent de voir, ils ne voient pas, ils n'entendent pas la voix, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils restent étrangers à cette expérience-là. Et peut-être que c'est déjà une première chose qu'on peut se dire. C'est que cette expérience-là, pour fulgurante et fondatrice qu'elle a été pour Paul, pour radicale, cette expérience qui constituera une référence pour lui dans les difficultés énormes qu'il va rencontrer dans l'avenir. Cette expérience qui pour lui restera une preuve, une pierre sur laquelle il pourra s'appuyer. Cette expérience-là n'a pas de sens pour ses compagnons. C'est une expérience intime, subjective. C'est d'ailleurs assez notable de voir que dans les deux circonstances, dans les actes, où Paul reparle de cette expérience, aucune des personnes qui ne l'écoutent n'est convaincue. Et c'est important qu'on puisse savoir ça, nous. C'est-à-dire que notre foi repose sur une expérience de l'intime, mais qui n'a pas valeur de référence pour nos contemporains. C'est un des premiers sens qu'on peut tirer de notre vie avec Dieu. Notre rencontre est une rencontre de l'intime. Deuxième chose, ça a été pour Paul un véritable séisme. Et le premier séisme pour lui, c'est la cécité. Paul est devenu aveugle à cause de l'éclat de la lumière de Christ. Il était parfait, cet homme. Il revendiquait la connaissance de la loi, la fidélité à Dieu. Il avait le pouvoir sur la vie des autres et sur leur liberté. Il se donnait ce pouvoir-là en raison de sa conviction intime de connaître la lumière de Dieu. Cet homme-là, à un moment donné, à ce moment-là, devient aveugle. C'est-à-dire qu'il ne voit plus. Il devient aveugle et il est entouré d'hommes incapables de lui expliquer ce qui se passe. Tout devient obscur. Sa rencontre avec le Christ le fait entrer dans la dimension du non-savoir absolu. Tout est noir. Ce qu'il comprenait avant s'écroule. Ses repères sont bouleversés. Ses certitudes, sa justice, ses connaissances, tout vole en éclats. Paul dit que cette révélation a tout bouleversé dans sa vie, tout ce qu'il estime juste, tout ce sur quoi il a fondé sa vie, tout ce qui a fait sa fierté, tout ça s'est écroulé dans ce moment-là. C'est tellement fort que pendant 3 jours, il n'en mange rien et il ne boit rien. Alors pour des Français, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais il reste avec cette idée, avec cette présence lancinante, qu'il a combattu Dieu lui-même, ce Dieu qu'il pensait servir. Car il ne se trompe pas. Luc, quand il relate cet événement, dit que Jésus lui a dit « Je suis celui que tu persécutes ». Et quand il dit « Je suis », ce n'est pas « Je suis » tout bête. C'est le « Je suis » de la révélation divine. Et donc, clairement, et Paul ne s'y trompe pas, Jésus-Christ se présente à lui comme Dieu. Et c'est ce Dieu-là que Paul voulait servir et qu'il a combattu. Alors vous imaginez l'angoisse? Essayons de comprendre quelle image Paul peut avoir de Dieu lui-même. Si cette image correspond à ce qu'il fait, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui, sur la base de la justice, élimine ceux qui s'opposent à lui. Vous imaginez Paul ? Pendant 3 jours, il reste avec cette idée-là présente, toutes les minutes de ces 3 jours-là. L'angoisse. Et pendant 3 jours, Paul reste avec ce constat brut, avec ses questions, et il n'y a pas de réponse. Son monde s'est écroulé et rien n'est reconstruit derrière. Voilà le premier effet de sa rencontre avec Jésus-Christ. C'est un monde en ruine. Il fallait bien ça pour Paul. Engagé comme il était, certain comme il était, j'ai envie de dire sécurisé comme il l'était, il fallait un vrai coup de bazooka. Et tout se passe en quelques minutes. Peut-être que ce qu'on peut se dire pour nous quand même aussi, c'est que ce travail de déconstruction est indispensable dans notre relation avec Dieu. Voici les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont faites nouvelles. Notre rencontre avec Jésus-Christ vient changer nos représentations. Le plus souvent, j'avais mis pas toujours, mais je crois que c'est le plus souvent, c'est pas de manière aussi radicale que Paul, mais toujours, toujours, nous avons à apprendre avec Jésus-Christ l'autre monde dans lequel il veut nous faire entrer. Ce monde où nos modèles anciens disparaissent. Ce premier pas pour Paul, ça l'a mis en crise. crois qu'on peut tous témoigner, en tout cas nombreux, que le travail de l'Esprit Saint, dans nos vies, nous met aussi souvent en crise. En tout cas, il nous met dans le changement. Parce qu'il vient changer les fondements et le sens de nos vies. Et là, on voit un homme qui arrive. Un homme appelé par Dieu, Ananias. Un croyant. Dieu l'interpelle parce que, compte tenu du contexte, il fallait vraiment un envoi clair et fort. Mais Ananias, représentant de la communauté des croyants, arrive vers Paul. Il arrive avec la parole de Dieu et c'est lui qui vient donner du sens à cette expérience que Paul a eue sur ce chemin de Damas. Il vient le sortir de ce marasme pour poser les paroles que Dieu lui a données. Alors, il vient donner du sens à cette expérience et il vient lui confirmer que celui qu'il a appelé, c'est bien Jésus-Christ, Dieu lui-même. Mais contrairement à l'image que Paul avait de Dieu, il lui dit que Jésus-Christ est venu pour le trouver, lui, parce qu'il avait un plan pour lui et parce qu'il voulait le rencontrer et le sauver. Quel bouleversement! Et comme signe de cette bienveillance, de cette nouvelle compréhension des choses, il lui impose les mains et Paul recouvre la vue. Ananias, représentant la communauté des croyants, vient confirmer l'expérience de Paul, il vient lui donner sens et il vient l'inscrire dans une relation nouvelle avec Dieu. On peut peut-être en tirer 2-3 éléments pour nous-mêmes. Si on considère les choses de cette manière, on s'aperçoit que la crise de foi est quand même relativement normale dans la vie du chrétien. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bon chrétien, solide ou pas solide, de bien avoir compris la vérité de Dieu. C'est simplement l'œuvre de l'Esprit qui vient travailler en nous. C'est le projet de Jésus-Christ qui vient changer nos vies. Mais cette crise, elle a besoin d'être accompagnée. Voilà le rôle de l'Église. Et je vous invite à ne pas rester seul dans ces moments-là. On a tous, moi le premier, remis en cause les fondements même de notre foi. Ce qui faisait que c'était difficile pour nous de nous projeter dans une vie réelle avec Dieu. On a remis en cause cet élément-là de nos vies. Et c'est vrai que c'est plus facile. Si on est étayé par la communauté des croyants qui vient nous rencontrer et nous accompagner. Parce que l'action de l'Église à ce moment-là, c'est comme pour Ananias, c'est de donner sens à notre expérience. C'est de nous redonner la paix. C'est de nous ouvrir les yeux. On n'est plus aveugle. C'est de nous redonner des forces, comme Paul a pu reprendre des forces suite à l'intervention d'Ananias. Voilà, les choses étaient posées. Paul a découvert un Dieu qu'il n'imaginait même pas, bienveillant. Un Dieu qui l'appelle dans un monde nouveau dans lequel il veut le faire entrer. Et si vous voulez bien, on va essayer de comprendre ce que c'est que ce monde nouveau. En tout cas, la façon dont lui, quand il fait référence à cette expérience-là, il pourra en tirer des enseignements. Je pense en particulier dans la lettre qu'il écrit aux Galates et dans la lettre qu'il écrit aux Philippiens. La première des choses qu'il faut se dire, c'est que ça a pris du temps. Le travail de l'esprit, c'est un travail d'une vie. Et j'ai envie de dire, on aurait besoin de la vie éternelle pour que Dieu puisse accomplir ces changements en nous. Mais bon, en tout cas, le temps passant, Paul va entrer toujours plus dans la vision que Dieu peut avoir pour l'humanité. Et il en tire des éléments un peu concrets pour nous. La première des choses, c'est que, souvenons-nous, Saul, ce Paul, avant de se convertir, était attaché viscéralement à ce qu'il avait construit. Toutes ces choses, et lui-même, étaient au centre de sa vie. Et c'est en s'appuyant sur ses convictions, sur le dogme et la loi telle qu'il les perçoit, en s'appuyant sur les représentations qu'il a construites et l'image qu'il s'est faite lui-même de Dieu, c'est en s'appuyant sur ces convictions-là qu'il va estimer qu'elles sont plus importantes que les individus qu'il va rencontrer, qu'il estime s'opposer à la vérité de Dieu et qui conduira à la persécution et à la mort. Je parle des chrétiens, on est bien d'accord. Pour conserver ses croyances intactes, il est prêt à torturer, à tuer, et il le fait avec fureur. Alors que Paul, chrétien, subordonne tout à l'intérêt qu'il a pour ceux qu'il rencontre sur son chemin, à l'intérêt qu'il a pour les personnes. Ce qui devient important pour lui, c'est la liberté et le salut de l'autre. Et on comprend mieux les positionnements ultérieurs qu'il va avoir lors des controverses et des difficultés dans l'Église. C'est là-dessus qu'il s'appuie. C'est que ce n'est plus lui qui est important, c'est l'autre qui est en face de lui. Ça nous donne deux indicateurs que peut-être on peut s'approprier pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est que la rencontre avec Jésus-Christ et le travail du Saint-Esprit nous décentrent de nous-mêmes. Et il nous donne la possibilité de nous intéresser et de nous préoccuper de notre prochain. Deuxième indicateur, c'est que, de toute façon, l'homme est plus important, c'est-à-dire l'autre est plus important que les idées qui m'habitent. Deuxième élément, c'est que quand Paul relate son expérience aux Galates, il les exhorte à sortir des particularismes juifs de l'époque, c'est-à-dire de ce qui faisait leur spécificité. Il va comprendre que Dieu sonne la fin des signes et des spécificités sur lesquels reposent les organisations et les fonctions sociales de l'époque. Et comme ça, il pourra dire, mais en fait, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tous sont un dans le Christ Jésus. Et celui qui rencontre Jésus-Christ découvre que ce dernier est l'auteur et le support d'un changement radical. Le Christ assure un fondement à l'existence dont le centre est à l'extérieur de ce monde. Ce qui constitue l'être chrétien est situé en Christ. On n'a plus rien à faire du coup du regard de la société. On n'a plus rien à faire des spécificités qui sont devenues fondamentalement inopérantes. Et nous devenons libres, alors, de toute chose, de ce qui n'est pas la grâce. La dernière chose, c'est effectivement aussi la question de la grâce. C'est que Paul va passer d'un statut où il est devenu juste, irréprochable, grâce à son engagement. Il est irréprochable aux yeux de la loi. C'est comme ça qu'il se présente, ne l'oublions pas. Il passe de ce statut-là au régime de l'espérance qui accepte le regard de la grâce de Dieu pour se définir soi-même. C'est-à-dire que la seule chose qui est importante, c'est que je deviens libre et accueilli par Jésus-Christ. Et je ne me prends plus comme référence de ce que j'estime être, valoir, mais je deviens celui qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Cette relation, cette nouvelle réalité m'inscrit dans une relation qui a un double sens. Le premier, c'est que Dieu donne la justice à l'homme. Nous sommes aujourd'hui en Christ justifiés et nous n'avons plus rien à faire pour pouvoir paraître devant Dieu. La deuxième chose, c'est que nous devons, pouvons, notre travail, j'ai envie de dire, c'est d'accueillir Christ. Et cette relation et ce double mouvement nous met en route et nous transforme. Le regard de la grâce me définit et me libère. Ce regard me dit que je suis digne de l'intérêt que Dieu me porte et que ma valeur ne repose pas sur mon pédigré, mais sur le fait que Dieu, en Christ, me déclare juste et m'accueille inconditionnellement. Je deviens donc libre, car je ne me prends plus comme référence, mais j'adopte la grâce inconditionnelle de Dieu. La dernière chose que peut-être on peut tirer comme leçon pour nous-mêmes, c'est que grâce à ça, je peux changer de regard sur mon prochain, qui est lui-même bénéficiaire de la grâce de Dieu. Alors dans nos relations, il n'y a plus de jugement. Il n'y a qu'un regard qui accueille et qui accompagne, comme Ananias a su accompagner Paul pour le restaurer et l'introduire dans une relation nouvelle avec Dieu. On comprend dès lors que la vie de Dieu a fait comprendre à Paul que ce n'est pas lui qui s'est racheté de son passé par son travail missionnaire et par son martyre. Il a simplement été racheté de son passé par Jésus-Christ. Et il a pu communiquer cette liberté aux générations de chrétiens qui l'ont suivi. Alors pour en revenir au début, on comprend que l'œuvre de Dieu n'est pas là pour avoir comme objectif d'assurer notre développement personnel, notre épanouissement, comme une fin en soi, comme une chose à rechercher. Mais l'œuvre de Dieu nous fait faire l'expérience que sous son regard libérateur, nous trouvons notre vraie place, décentrée de nous-mêmes et ouverte sur autrui, libre de tout jugement et de toute condamnation. Bizarrement, lorsque nous n'avons plus rien à faire de nous-mêmes, nous découvrons alors que c'est en Christ que nous trouvons notre véritable dimension. Amen.